RFI, 6h30 à Antananarivo, 3h30 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI. Arthur Ponchelet.
Jeudi 12 juin, bonjour à tous, c'est Afrique Matin qui commence avec le journal. À la une, je présente mes excuses. Les mots du chef de la police kenyane devant les sénateurs hier, nouveau rebondissement dans l'affaire Alberto Jwang. Ce jeune homme retrouvé mort dans sa cellule, l'autopsie est formelle, il a été agressé. Les forces de soutien rapide n'ont pas assez d'hommes au Soudan et en appellent à un bataillon libyen du maréchal Haftar. C'est ce que nous dit un chercheur dans ce journal alors que les FSR ont revendiquer la prise d'une large zone près de la frontière avec l'Égypte. À la une également, 49 morts dans des inondations en Afrique du Sud. L'ancienne ministre sénégalaise Sophie Gladima, entendue dans l'affaire de détournement du fonds Covid. Et puis c'est un jeu pour certains, mais un danger pour d'autres. Alerte sur les pointeurs laser à Madagascar. Il y en a de plus en plus. Et vous l'entendrez, cela inquiète les pilotes d'avion. Non, Alberto Jwang ne s'est pas suicidé en se cognant la tête contre les murs de sa cellule. Ce jeune Kenyan de 31 ans, arrêté pour un tweet, a été retrouvé mort dans les locaux de la police et succombé à un étranglement et un traumatisme crânien. C'est la conclusion de l'autopsie, alors que les policiers, eux, assuraient qu'il s'était suicidé. Cette affaire est devenue un nouveau symbole de la répression policière au Kenya et les réactions s'enchaînent à l'Albatiroir, y compris du côté de la police.
Les sénateurs ont convoqué hier plusieurs hauts responsables sécuritaires pour répondre à leurs questions autour du décès d'Alberto Jwang. Parmi eux, le chef de la police, Douglas Kanja. Durement questionné, il a reconnu une faute. Ce n'est pas vrai qu'Alberto Jwang s'est cogné la tête contre le mur. Je présente mes excuses de la part de la police pour cette information, a-t-il concédé, avant de promettre des mesures disciplinaires après les conclusions de l'enquête. L'AIPOA, la police des polices, a assuré que son rapport serait prêt dans 10 jours. Sa vice-présidente a toutefois déploré l'absence des images de vidéosurveillance de la nuit en question, trafiquées selon elle. La séance au Sénat a aussi apporté plus de précisions sur l'arrestation d'Alberto Jwang. On savait qu'elle avait été déclenchée par une plainte du numéro 2 de la police. On sait désormais que la plainte concernait des publications sur X l'accusant de corruption, notamment d'avoir placé des officiers loyaux à des postes de contrôle de flux financiers. Ces derniers jours, les appels à sa démission se sont multipliés. Ce drame des mains de la police est déchirant et inadmissible, a jugé hier William Ruto. Alors que la contestation monte, le président a appelé à ne pas émettre de jugement prématuré. Albin Tour à Nairobi, RFI.
Et de leur côté, les ambassades américaines et britanniques ont chacune appelé à ce qu'une enquête transparente soit menée. Et puis, un an après les violentes manifestations au Kenya, le gouvernement doit présenter aujourd'hui son budget au Parlement. Le projet de loi de finances avait suscité la colère l'an dernier avec des rassemblements réprimés dans le sang. William Ruto avait finalement retiré le texte. 96% des voix et tous les sièges à l'Assemblée nationale. Raz-de-marée électorale pour le parti au pouvoir au Burundi. Le président de la CENI a dévoilé les résultats provisoires des législatives. Hier soir, aucun parti d'opposition ne siégera au Parlement. On a tué la démocratie, dit l'opposant Olivier Nkurunziza, qui dénonce des élections truquées. On y revient en détail dans la deuxième édition d'Afrique Matin avec Nemo en Peace dans une heure. C'est une victoire présentée comme stratégique et décisive par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Au Soudan, les hommes du général Emeti ont pris le triangle frontalier avec l'Égypte et la Libye. L'armée régulière annonce s'être retirée de cette zone après des violents combats contre les FSR, des paramilitaires qui n'ont vraisemblablement pas agi seuls. Ils auraient été aidés par le maréchal Haftar, homme fort de l'est de la Libye. C'est en tout cas ce que dit l'armée soudanaise et le chercheur soudanais Majdi El Ghizouli. Pour lui, le bataillon libyen Katiba Sobol Asalam a activement pris part au combat.
La nouveauté, c'est qu'il s'agit d'un bataillon de troupes libyennes qui a lancé l'attaque par le nord alors que les paramilitaires, eux, sont arrivés par le sud. C'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre cette position de l'armée soudanaise. Il y a toujours eu des mercenaires libyens qui travaillaient avec les paramilitaires soudanais, des officiers, des techniciens qui savent opérer des drones. Mais là, c'est un bataillon de combattants qui a participé à l'opération, un bataillon loyal à Khalifa Haftar et qui est habituellement impliqué dans le trafic d'armes et de carburant. Car vous ne pouvez pas vous battre au Darfour sans avoir une chaîne d'approvisionnement en carburant. Celui-ci vient principalement de Libye. Le problème des FSR, c'est de pouvoir tenir tous les différents fronts. Ils veulent maintenir le siège d'El Fasher et pour cela, ils doivent maintenir une chaîne d'approvisionnement. Ils combattent également au Kordofan, où ils font face à plusieurs offensives de l'armée et ils n'ont pas assez d'hommes pour tous ces fronts et pas assez de temps pour former de nouvelles recrues, d'où l'utilisation de ce bataillon libyen.
Propos recueillis par Alexandra Branjon. Et notez que dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement loyal au maréchal Haftar nie toute implication dans l'attaque. Suite des négociations de paix entre la RDC et le Rwanda, des délégués des deux pays sont attendus cette semaine à Washington. Ils doivent travailler sur un deuxième projet d'accord qui fixe certaines conditions préalables à la signature, comme le retrait du Rwanda du territoire de son voisin. Le texte aborde aussi la question des FD. DLR, on vous raconte les détails de ce document que RFI a pu consulter sur notre site rfi.fr. La neige, la pluie et le vent qui s'abattent en même temps, c'est un début d'hiver austral très intense qui frappe l'Afrique du Sud. Du jamais vu, dit même le premier ministre de la province du Cap-Oriental, région du sud du pays. Les inondations ont fait des victimes. Ce week-end, le dernier bilan fait état de 49 morts, Claire Bargelès.
Cette tempête hivernale a particulièrement touché la région autour de la ville de Mtata. Un minibus scolaire a notamment été emporté par les flots. Il transportait 13 personnes. 6 élèves sont décédés, ainsi que le chauffeur et son assistant, et 4 sont portés disparus. Plusieurs rescapés ont été secourus alors qu'ils s'étaient réfugiés sur les toits des maisons ou dans les arbres. Des pluies incessantes, des vents violents et des glissements de terrain ont tragiquement coûté des vies et causé des ravages à grande échelle, a détaillé le chef du gouvernement local, Oscar Mabou. Des centaines de personnes ont dû être accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence après l'inondation de leur maison. Nous n'avons jamais subi de désastres comme cela, mais désormais, avec le changement climatique et le réchauffement mondial, ils sont inévitables, a continué Oscar Mabouyané, qui se désole du peu de ressources à disposition dans sa région, alors que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et de son côté, le président Cyril Ramaphosa a prévenu, les conditions hivernales restent une menace. Il appelle les Sud-Africains à faire preuve de prudence. En bref, au Tchad, alors que Youssouf Boy, l'ancien directeur de cabinet du président, est toujours en prison, son accusateur, lui aussi condamné à 5 ans de prison, a été discrètement libéré cette semaine. Mahamat Hakim Bouder a quitté le pays mardi, officiellement pour se faire soigner. L'homme d'affaires n'aura passé qu'une heure à la maison d'arrêt de Klesoum. Il est 3h37 en temps universel. L'affaire de détournement des fonds Covid se poursuit. Au Sénégal, plusieurs anciens ministres de Macky Sall, 5, sont soupçonnés dans cette affaire. Plusieurs d'entre eux ont été entendus par la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice et Juliette Dubois, hier, c'était au tour de l'ancienne ministre des Mines, Sophie Gladima.
Selon l'avocat de Sophie Gladima, maître Antoine Beng, l'audition s'est bien déroulée. L'ancienne ministre et maire de Joël Fadiout a répondu de manière complète et sereine aux questions des juges. Selon maître Beng, le dossier porte sur 2 marchés passés lorsqu'elle était ministre. Le premier concerne du matériel qui aurait bien été livré. Le second, plus sensible, visait la construction d'une usine à Kédougou. Un acompte avait été versé pour sécuriser l'achat, mais le terrain n'était finalement pas disponible. L'usine n'a donc pas été construite. Maître Beng insiste, il n'y a pas eu d'intention de détournement. Les fonds n'ont pas été dissipés, ils sont toujours traçables. Et le prestataire a même proposé de rembourser la somme. Une demande de levée du mandat de dépôt sera introduite dans les jours à venir par la défense de Sophie Gladima, en plaidant une simple faute de gestion. La commission d'instruction doit désormais statuer sur un non-lieu ou un renvoi devant la Haute Cour de justice. 3 autres anciens ministres ont déjà été entendus. Seule l'audition d'Ismaïla Madjorfa, l'ancien ministre de la Justice, reste à venir. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Elle est visée par une nouvelle procédure judiciaire en France. Pascaline Bongo est cette fois inculpée pour blanchiment de corruption passive par un agent public étranger. La procédure date du mois de janvier, mais on ne l'a appris qu'hier. D'après une source citée par l'AFP, entre 10 et 11 millions de dollars ont été blanchis, puis versés sur les comptes personnels de la fille de l'ancien président gabonais. 20 jours, c'est le délai accordé par la justice mozambicaine à Venancio Mondlane pour préparer sa défense. L'opposant est accusé d'avoir incité à la crise post-électorale, crise particulièrement violente. Plus de 300 morts après la présidentielle du 9 octobre. Les récentes rencontres entre Venancio Mondlane et le président Daniel Chapo semblaient avoir apaisé les choses. Mais Eva Massi, l'opposant, est toujours dans le viseur de la justice.
L'État mozambicain exige à Venancio Mondlane le paiement d'une amende de 445 000 euros pour préjudice matériel. Le pouvoir l'accuse d'avoir instigé les manifestations qui ont produit de nombreux dégâts à travers tout le pays en octobre suite aux élections présidentielles. La justice lui donne 20 jours pour organiser sa défense, auquel cas il serait reconnu coupable des faits qui lui sont imputés. L'ancien candidat à la présidence, qui continue de réaliser des directs sur ses réseaux sociaux, a réagi ce mardi soir. Sur Facebook, il dénonce une persécution judiciaire, mais se disent sereins. Ce délai que lui impose la justice intervient moins d'un mois après de récentes rencontres avec le président Daniel Chapeau, des rencontres qui laissaient espérer un début d'entente politique et qui étaient organisées pour discuter de la mise en place d'un processus de réconciliation nationale. Venancio Mondlane, déjà visé par plusieurs procédures et placé sous contrôle judiciaire, depuis mars, il ne peut pas se déplacer sans avertir le bureau du procureur. Malgré cela, l'opposant affirme assumer pleinement son rôle de leader politique. En avril, il a créé son propre parti politique, l'Alliance nationale pour un Mozambique libre et autonome, toujours en attente d'une approbation formelle de la part des autorités.
Eva Massi, il faut sauver les requins. L'appel d'une quinzaine de pays hier à la conférence des Nations Unies sur l'océan. Ils appellent à en faire plus pour lutter contre l'extinction de cette espèce, mais aussi contre celle des raies. Leur survie est une question de sécurité alimentaire mondiale. Voilà ce qu'en dit Arlette Soudan Nono, la ministre de l'Environnement du Congo, qui représente son pays à Nice. Cette semaine, l'UNOC, on en parle aussi dans le dossier d'Afrique Matin, dans le journal de 6h30, temps universel. En attendant, on termine ce journal à Madagascar. Peut-être les avez-vous aperçus à la tombée de la nuit, d'étranges lumières vertes pullulent dans le ciel malgache. C'est le nouveau gadget à la mode, à quelques jours de la fête nationale, les pointeurs laser. On en trouve un peu partout, dans les rues, et leur effet peut être dévastateur, notamment pour les voitures et les avions. Sarah Teto, plusieurs pilotes ont ainsi été éblouis ces derniers jours.
Éblouis par des dizaines de lasers braqués sur leur appareil, plusieurs pilotes et leur compagnie ont alerté l'aviation civile malgache du problème de sécurité que ces petits objets, vendus quelques dizaines derrière sur les trottoirs, pouvaient causer. C'est pire que les années précédentes, confie un commandant de bord. Lors de l'approche de la piste d'atterrissage, les pilotes doivent en effet effectuer un circuit visuel extérieur-intérieur pour garder une trajectoire bien précise. Désormais, ils doivent aussi éviter de croiser du regard ces lasers aveuglants. Une nouvelle menace à gérer donc, que le ministre des Transports, Valérie Ramanzavelu, dit prendre très au sérieux.
Face aux attaques de pointeurs laser dans l'aviation, mais également aussi sur les routes, le gouvernement va prendre des mesures sur ce sujet.
L'urgence, explique le ministre, c'est d'abord de sensibiliser les utilisateurs de ces lasers, souvent bien inconscients des dangers qu'ils peuvent causer. Ensuite,
nous allons proposer donc un arrêté interministériel qui va concerner aussi bien pour éviter les importations, pour dire que ça a des répercussions sur la santé. Ça a toujours été plus ou moins accepté, mais maintenant donc on va prohiber tout ça. Voilà. On voudrait faire ça dans les meilleurs délais. L'objectif, c'est qu'on puisse sauver des vies et qu'on puisse éviter des accidents.
Interdire l'importation, sans doute le nerf de la guerre. Madagascar a interdit il y a 10 ans l'usage et la vente de pétards, mais en l'absence d'interdiction d'importation prononcée, les petits explosifs continuent chaque année à proliférer sur les marchés à l'approche de la fête nationale. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Un mot de sport avant de refermer ce journal. Ça y est, on connaît l'affiche de la finale de la Ligue africaine de basket. Le Petro Atlético de Luanda affrontera le Al Ahly Tripoli. Les Angolais ont gagné leur match contre les Égyptiens du Al Ittihad, 96-74. L'équipe libyenne, elle, s'est imposée face à l'APR du Rwanda, 84-71. Rendez-vous samedi donc pour la finale. Ça se passera du côté de Pretoria et puis de l'Atlético. L'athlétisme à la une aussi ce matin et la célèbre ascension du mont Cameroun rattrapée par le fléau du dopage. 2 des médaillés de l'épreuve en février dernier viennent d'être sanctionnés. On en parle dans le journal des sports d'Antoine Grenier dans tout juste une heure. Et pour l'heure, il est tout juste 3h43 en temps universel.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur rfi.fr. Afrique Matin sur RFI. Arthur Ponchelet.
Et 2 heures de plus à Paris. Restez avec nous dans les prochaines minutes. On est dans le nord de la Côte d'Ivoire. On part à la rencontre des femmes qui récoltent le karité dont la campagne vient de commencer. Direction ensuite le Zimbabwe. C'est là que la chronique des matières premières pose ses valises ce matin pour parler de l'industrie du lithium. Et puis, on est à Mayotte dans le journal de la première où on s'intéresse à l'état des écoles avec Benoît Ferrand. Mais d'abord, homme libre, toujours, tu chériras la mer. Des mots qui résonnent un peu plus fort cette semaine à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Vous le savez, ça se passe à Nice, dans le sud de la France. On vous le fait vivre sur RFI. Depuis lundi, il a beaucoup été question de la pollution et des dangers que courent les océans. On a aussi beaucoup parlé des liens économiques entre les peuples et la mer, mais pourtant, Elle est aussi l'objet de croyances et source de foi. C'est le cas au Sénégal, qui compte plus de 700 km de côte. RFI reportage, Léa-Lisa Vesteroff.
De l'eau jusqu'aux cuisses, brosse et savon à la main, Mustapha lave soigneusement un mouton dans l'eau turquoise de l'océan. Un rituel, tout ce qu'il y a de plus banal pour ce pêcheur de 23 ans.
On est en train de préparer la tabaski, quoi, la fête du tabaski. Oui, on lave les moutons pour demain. La mer, ça a la prothèse, ouais, avec les bactéries et tout.
Mustapha, qui est né et a grandi dans le village de Ngor, a toujours eu la plage pour jardin, la mer pour horizon, l'océan systématiquement là pour accompagner les grandes fêtes.
C'est une forme de tradition, parce que nous, depuis on est tout petit, notre père et notre grand-père, ils sont en train de laver ici, quoi, sur la mer. C'est pour cela que nous, on fait ça, quoi. Des fois, on s'est il est concentré. Après, on va le mettre sur la mer, quoi.
Pourquoi ?
C'est pour notre grand-père.
Les ancêtres ?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est la traditionnelle, quoi.
Laver les moutons, verser du lait ou sacrifier un animal dans la mer pour demander la bénédiction de l'océan. Entité sacrée, source de vie et de subsistance pour la communauté Lébou qui peuple les côtes sénégalaises. C'est aussi ce qui explique que la confrérie soufie des Layennes, tournée vers les flots, est née ici, sur la péninsule où se trouve Dakar.
Même en prière, on vous dit, et des fois, si vous êtes en prière quelque part et que vous avez la mer devant vous, tournez-vous vers la mer. C'est l'origine de tout.
Sérignabo est le conservateur d'un des sites où les Layennes viennent se recueillir, une grotte, véritable fente dans la falaise ouverte sur l'océan et dans laquelle on peut descendre.
La grotte fait face à la mer. Le puits où on s'altère se trouve au bord de la mer.
Il confirme ce lien spirituel fort entre le fondateur de la confrérie, Sedina Liman Moulay, et la mer.
L'océan est indéniablement un compagnon de notre communauté. Il est né dans un village qui est complètement entouré de l'océan Atlantique. Donc au nord, à l'ouest et au sud. Et il fait partie d'un peuple qu'on appelle le peuple Lébou. Les Lébou, on les appelle les gens de la mer, parce que leur tout, c'est la mer. À part les champs à cultiver, la mer occupe 60 ou 70% de leurs besoins.
Aujourd'hui, les fidèles Layennes continuent de croire et d'espérer que leur mausolée et leur lieu saint, qui bordent l'océan, sont protégés de la montée des eaux, du fait de ce lien très fort qui existe entre leur spiritualité et la mer. Léa-Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
La mer, on en parle côté environnement aujourd'hui sur RFI avec l'émission C'est pas du vent, délocalisée à Nice. Et cette question, qu'est-ce que les pays du Sud peuvent attendre de la conférence des Nations Unies sur l'océan ? 5h47 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez dans les grands titres de l'actualité internationale. Donald Trump ne laissera jamais la loi de la rue régner en Amérique. Mise au point de la Maison Blanche hier après les incidents à Los Angeles, un calme relatif est désormais revenu dans la ville après le couvre-feu nocturne imposé par la maire démocrate. Mais une audience est attendue aujourd'hui devant un tribunal fédéral car le gouverneur de Californie conteste la réquisition de la garde nationale par le chef de l'État. Gavin Newsom accuse Donald Trump d'outrepasser ses pouvoirs. Un vote attendu aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ONU sur un projet de résolution non contraignante exigeant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Un texte ressemblant à celui qui s'est heurté au veto des États-Unis la semaine dernière au Conseil de sécurité. De son côté, la Knesset, le Parlement israélien, a rejeté ce matin un projet de loi visant sa dissolution. 61 députés sur les 120 ont voté contre, 53 pour ce texte, présenté par l'ensemble des partis d'opposition, une courte majorité. Et puis, il incarnait une certaine idée de la Californie avec une musique qui a largement dépassé les frontières. Le cofondateur du groupe The Beach Boys, Brian Wilson, est décédé à l'âge de 82 ans. On y revient dans le journal de Simon Bourtembourg à 4h temps universel. On s'en sert notamment pour fabriquer des produits cosmétiques ou encore des briques de tourteau. C'est un petit fruit vert, mais qui pèse gros pour les producteurs de Côte d'Ivoire. La campagne du karité a démarré, filière régulée par le conseil coton Anacard dans le pays, qui se classe 5e producteur mondial dans le Nord. Avec le début de la saison des pluies, le ramassage a déjà commencé. Reportage pour Afrique Économie, Binta Diagne.
C'est un espace communautaire en périphérie de Bouna. Plusieurs femmes sont accroupies et ramassent des amandes de karité. Il faut aller vite car un troupeau de bœufs dévore les fruits mûrs tombés au pied des arbres de karité, comme l'explique Beninguelaya.
Je viens ici très tôt, vers 5h30, car ce fruit est prisé par tous les animaux à cause de sa pulpe qui est très sucrée. Il faut être rapide pour le récolter avant eux.
Cette activité attire plus de monde car la précédente campagne a été favorable. En effet, sur les marchés internationaux, les amandes de Côte d'Ivoire étaient montées en flèche l'an dernier après que le Mali et le Burkina ont pris des mesures pour suspendre l'exportation de leurs amandes de karité. Cette hausse a attiré plus de femmes dans la collecte des amandes. En période de récolte, ces travailleuses peuvent gagner jusqu'à 2500 francs CFA par jour. Parmi elles, Kamoussan Bena, cette activité lui permet d'améliorer sa qualité de vie.
L'activité se porte bien. Avant, je ramassais beaucoup d'amandes de karité, mais les prix étaient faibles. Depuis l'an dernier, ça a changé. Je fais des bénéfices. Par exemple, cet argent me sert à scolariser mes enfants.
Une fois récoltées, ces amandes sont ensuite vendues à des coopératives, à l'image de Scoop Prokokab, qui regroupe 600 femmes à Bouna. Cette coopérative transforme ce fruit en beurre de karité. La hausse des prix sur les marchés internationaux a été répercutée sur les prix des produits revendus par cette coopérative, comme l'explique Siata Ouattara, la présidente de cette organisation.
Aujourd'hui, la concurrence est rude. On va vendre cher aussi notre amande que nous allons produire. Le kilo qui était à 200 francs, aujourd'hui est à 1600 francs. Donc le kilo a triplé. Ça a fait qu'aujourd'hui, le beurre que nous on vendait à 1000 francs, aujourd'hui c'est 2000. Et le kilo qu'on vendait à 1500, 2000, aujourd'hui on est obligé de vendre à 3000.
Cette coopérative réalise l'essentiel de ses bénéfices sur les dérivés du karité, notamment les produits cosmétiques fabriqués à partir des résidus de coques de karité ou encore les briques de tourteau utilisées comme combustible. Binta Diagne, de retour de Bouna, RFI.
Et on devrait connaître le prix du karité d'ici la fin du mois en concertation avec le conseil coton anacarde. On s'intéresse à un métal dans la chronique des matières premières, le lithium. L'an dernier, le Zimbabwe lançait un ultimatum aux producteurs. Ils ne devaient plus exporter de lithium brut. Et cette fois, les autorités lancent un nouvel appel aux acteurs miniers. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Elles veulent que d'ici un an et demi, les entreprises aillent un cran plus loin dans le traitement du minerai.
Oui, car la transformation du lithium exigée depuis l'année dernière dans le pays permet de produire du concentré, mais cette étape reste sommaire au regard de l'ensemble du processus de raffinage. Avec les règles édictées l'année dernière, le pays a surtout voulu décourager les mineurs artisanaux qui n'ont pas les moyens de réaliser ce premier traitement. Harare veut maintenant créer plus de valeur et produire du sulfate de lithium, un produit intermédiaire qui se vend environ 3 fois plus cher que le spodumène exporté aujourd'hui. Il sera, comme c'était le cas avant, aussi expédié vers la Chine pour y être encore transformé en matériaux de qualité batterie. La Chine, parce que c'est elle qui domine à près de 80% l'activité de raffinage du lithium dans le monde.
Et d'ailleurs, le lithium du Zimbabwe est exploité majoritairement par des entreprises chinoises.
Oui, des Australiens sont aussi présents, mais les sociétés chinoises ont effectivement jeté leur dévolu ces dernières années sur le Zimbabwe, un pays pionnier en matière d'exploitation du lithium sur le continent africain et dans le top 5 des producteurs mondiaux. La raison de cet intérêt est simple, la Chine a besoin de lithium pour faire rouler ses voitures électriques. L'année dernière, le Zimbabwe a fourni près de 15% des besoins de la Chine en concentré de lithium. À partir de janvier 2027, si le calendrier est tenu, ce sera du sulfate de lithium que le géant asiatique achètera.
Et Marie-Pierre, est-ce que les opérateurs miniers sont prêts à se plier aux nouvelles exigences d'Harare ?
Alors, les miniers présents au Zimbabwe n'ont pas contesté publiquement le calendrier donné cette semaine par le gouvernement. Mais en revanche, ils demandent un geste aux autorités pour qu'elles reportent l'application de la taxe à l'exportation qu'ils paient aujourd'hui sur les cargaisons de concentré de lithium. Un report le temps qu'ils construisent et mettent en service les nouvelles unités de raffinage. Le défi des miniers au Zimbabwe sera d'être capable demain de produire dans les conditions offertes par le pays un vrai beau sulfate pur, fait remarquer un expert. Car la pureté est un élément essentiel pour éviter que les batteries prennent feu.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. Merci à vous et très bonne journée. Bientôt 4 heures en temps universel. Avant le retour de l'actualité internationale, on fait un détour par l'océan Indien. Comme tous les matins, on fait le point sur l'actualité à Mayotte et à La Réunion avec nos confrères d'Outre-mer La Première. À la une ce matin, une situation grave et des besoins colossaux. Voilà le constat de la Chambre régionale des comptes à propos de la situation des écoles à Mayotte. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. 85% des élèves seraient en rotation dans le département 101, ce qui veut dire tout simplement qu'ils se partagent un parc scolaire très insuffisant. Bref, on gère la pénurie, comme on dit, et selon la CRC, il ne s'agirait pourtant pas d'un problème de moyens financiers. Explication Raphaël Kahn.
L'argent est là. C'est ce qu'a martelé le président de la Chambre, les besoins aussi. Le nombre d'élèves a augmenté de 22% entre 2019 et 2024. Entre 3000 et 5000 enfants ne sont pas scolarisés. Il faudrait pour ça construire 1200 classes. Il y a plusieurs freins qui expliquent cette situation. Les problématiques du foncier, des risques naturels, le manque de moyens humains pour gérer les projets. Mais la gestion des communes est aussi en cause. Amtsongadwa, deux chantiers d'école ont été suspendus pendant 2 ans car la mairie ne pouvait plus payer les entreprises. Pourtant, ce n'est pas un problème d'argent. Depuis 2019, l'État a investi 200 millions d'euros pour accompagner les collectivités dans la construction d'écoles. La moitié de cette enveloppe n'a pas été utilisée. Si on ajoute à ça un périscolaire quasi inexistant et une restauration à base de collation, pour la Chambre, c'est clair, les mairies ne respectent pas leur obligation de scolariser les enfants. Une situation qui s'est aggravée depuis avec le passage du cyclone Chido.
Chido, suite avec les professionnels de la mer qui s'estiment oubliés. 6 mois après le cataclysme, les infrastructures seraient peu ou prou toujours dans le même état, autrement dit dégradées. Pas moyen, par exemple, d'amarrer correctement les bateaux, ce qui est évidemment très gênant lorsqu'on dirige une activité de sortie en mer, comme l'explique Rayman Maliki. Il est au micro de Darwesh Daou.
On ne sait pas où on va. On ne sait pas quand est-ce les infrastructures ils vont être mises en place. On n'a pas de visibilité. Vraiment, vraiment, nous galérons. Comme vous voyez, la marée est basse. Rien n'a été fait, en fait, pour nous permettre, à nous, les professionnels, de travailler dans des bonnes conditions. Là, il n'y a que nous, mais il y a d'autres encore, les professionnels de la mer, qui galèrent parce qu'on est obligé de venir ici pour récupérer nos clients, pour mettre à l'eau les bateaux. Et c'est vraiment problématique. Mais déjà, là, comme vous voyez, là, c'est fichu. On ne peut pas sortir le bateau. Là, on est obligé de dire aux clients de patienter jusqu'à l'après-midi. Et là, déjà, on a vraiment une grosse perte de temps. Jusqu'à l'après-midi d'attendre la marée haute pour pouvoir sortir le bateau. Donc là, ben, on est venu déjà pour pouvoir le sortir parce qu'on n'a pas calculé les marées. Et bien là, on est foutu. Là, on va repartir.
Et puisqu'on est les pieds dans l'eau, terminons cette édition à Nice où le président du conseil départemental de Mayotte est venu plaider la cause de l'inscription du lagon maoré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Écoutez Benissa Ousseni au micro de Caroline Marie.
Nous sommes ici pour parler de notre lagon, notamment de notre projet que nous avons pour classer ce lagon au patrimoine de l'UNESCO. Autour de cette conférence sur l'océan, on a des scientifiques, des sachants qui sont là. Donc je suis venu avec une équipe technique pour pouvoir travailler, échanger avec ces experts pour nous accompagner dans cette préservation de cette biodiversité et qui nous amènerait sur ce classement que nous souhaitons de notre lagon, de toute cette double barrière de corail qui entoure Mayotte. Il ne s'agit pas d'exclure les Maoris de ce lagon, il s'agit d'accompagner les Maoris à mieux s'approprier de ce lagon, de mieux l'exploiter tout en préservant cette richesse exceptionnelle que nous offre la nature.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi, Benoît Ferrand. Et c'est ainsi que se referme cette demi-heure d'actualité africaine, la première édition d'Afrique Matin. Merci à Laurent Hérault, à la réalisation, Sébastien Duhamel ce matin, à la rédaction en chef. Merci à vous surtout de votre fidélité à la Radio du Monde. L'actualité africaine revient dans tout juste 30 minutes. Vous avez rendez-vous avec Nemo en piste. D'ici là, restez bien avec nous. Dans une minute, un nouveau journal. Très bon réveil à l'écoute de RFI.
Appel sur l'actualité, prenez la parole. 33 9 693 693 70. Toutes vos questions et réactions sur l'actualité, du lundi au vendredi à 8h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent. Est à Nice, Anne-Cécile Bras.
Que peuvent attendre les pays africains de cette troisième conférence des Nations Unies sur l'océan ? Pêche, gestion du littoral, traité sur la haute mer, quelles sont les opportunités à saisir ? Réponse avec nos invités en direct de la baleine.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.